Et bonsoir, bienvenue dans ce 17e épisode de la 3e saison de Culture sans Yor, l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple sans et or, le RC Lens qui a terminé sa phase d'aller de Ligue 1 avec un nul en déplacement à Strasbourg et une victoire sur l'AJ Auxerre. On va débriefer évidemment ces deux matchs dans un instant. À la pause, on va jouer avec le quiz de Culture sans Yor. En deuxième partie, l'émission s'intéressera au cas Brice Samba. A-t-il l'opportunité d'avoir un avenir en équipe de France? Vous me donnerez votre avis dans le chat de l'émission. Enfin, on se tournera vers la prochaine rencontre des Lensois. Ce sera un déplacement à Brest pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France. Pour m'accompagner tout au long de l'émission, je vous présente le casting de ce 17e épisode. Il se fait plutôt rare dans l'émission, mais c'est pour mieux nous éblouir du talent de ses analystes. Quand il est là, c'est Damien Dervé-Duven qui est avec nous. Salut Damien.
Salut Valentin, bonsoir à tout le monde.
On est content de te retrouver Damien.
Plaisir de partager.
En parlant de talent, le sien n'est plus à démontrer. Il a même réussi à se faire passer pour Seb Dallé dans l'émission il y a 15 jours. C'est Hugo Neuré qui est là. Salut Hugues.
Merci Valentin, ça n'a pas duré longtemps cette illusion.
Allez, si Damien se fait rare, lui, a tellement de choses à dire dans cette saison du Racing qu'il ne peut s'empêcher d'être présent à chaque semaine. C'est Antoine qui serait notre troisième chroniqueur. Salut Antoine.
Salut Valentin, salut à tous.
Enfin, il espère secrètement rebaptiser cette émission Culture Gunners. C'est Antoine Combes qui clôture les présentations. Salut Antoine.
Bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui ont perdu le moins de matchs cette saison.
Allez, réagissez dans les différents chats de l'émission. On siffle la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture sans Yor sur les réseaux sociaux, ça se passe sur Twitter, Facebook et Instagram, et puis rendez-vous sur le site web de Culture sans Yor, culturesansyor.com, pour y trouver plein d'articles sur le club. Nous sommes en plein mois de janvier, pourtant l'air est plutôt doux du côté de l'Artois. Les hommes du coach S clôturaient cette semaine la phase aller du championnat de Ligue 1, avec deux matchs face à des équipes du bas de tableau, deux rencontres que les Lensois ont relativement bien négociées, glanant 4 points, leur permettant de garder leur deuxième place dans une saison de tous les records, où le rêve reste permis. La première de ces deux rencontres était un déplacement sur le terrain de Strasbourg, qui faisait trembler les chroniqueurs de Culture sans Yor la semaine dernière. Score final, 2-2 dans un match plutôt spectaculaire, messieurs, pour débuter ce premier tour de table. Hugues, est-ce que ce match nul est pour toi, selon tout, logique?
Oui, c'est logique parce que même si Strasbourg est une équipe de bas de tableau, c'est dû à un début de saison très difficile. Depuis quelques semaines, ils se sont bien rattrapés. On a vu qu'ils ont failli accrocher le Paris Saint-Germain, qui n'est pas au mieux. Donc, c'est une équipe plutôt bonne. Je dirais c'est plutôt une équipe qui joue comme une équipe de milieu de tableau en ce moment. Et réussir à faire un match nul là-bas sans Salis Abdoul Samed, qui a été pour moi le grand absent, celui qui nous a beaucoup manqué. Ouais, c'est un bon résultat de deux.
Damien, je te passe la parole. Score logique pour toi, de deux partout?
Ouais, assez d'accord avec Hugues, même si on a vu un Matsels assez extraordinaire sur certaines parades, enfin sur la frappe de Machado, moi clairement je la vois au fond, mais bon, il a sorti encore un très 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 gros match, bon, comme il fallait s'y attendre. Après Strasbourg, on savait que ça allait être un déplacement très périlleux, ça s'est vérifié, hein. C'est toujours des matchs, on va dire physiquement très très mouvementés. On a vu qu'il y avait des pains un peu partout, mais bon, c'est toujours une équipe très rugueuse, on le sait, on savait que ça allait être difficile. Ce point confirme la victoire face au PSG, on ne peut être que très heureux d'avoir su l'empocher. Surtout quand on voit que même Lyon a perdu des plumes contre eux, quoi.
Exactement. Antoine, c'est une équipe qui ne nous réussit pas, hein. Strasbourg, finalement un nul, c'était plutôt un bon résultat.
Ouais, et bah, comme on le disait en avant-match, hein, c'était un match il y avait tout à craindre de ce match. T'avais une équipe qui était au fond, qui changeait d'entraîneur, et comme tu le disais, un terrain où on n'a pas trop brillé ces dernières saisons. Moi, j'ai tendance à retenir de ce match l'embrassade entre les deux gardiens à la fin du match, qui résume parfaitement en fait ce qu'a été la rencontre, c'est-à-dire beaucoup de jeux, beaucoup de... Un match ne peut que être beau quand il commence avec 4 buts en 30 minutes. Et effectivement, match difficile à analyser puisque au final, il aurait pu basculer des deux côtés. Ouais. Et bon, bah, y avait moyen d'avoir des regrets, mais au final, comme tu l'as très bien dit, après avoir battu le PSG, je pense que c'était bien de confirmer en prenant encore un point à Strasbourg.
Ouais. On finit avec Antoine Combes. Antoine Combes, les deux équipes se sont rendues coup pour coup finalement et ce nul paraît logique.
Je suis d'accord jusqu'à la fin de ta phrase, logique. Oui et non. Oui, d'abord, ça a été un combat. Oui, et c'est ça qu'on aime dans ce genre de match où il n'y a pas de complexe d'infériorité. une équipe relégable qui reçoit le deuxième. Moi, j'ai beaucoup apprécié que Strasbourg joue et les yeux dans les yeux avec Lens. Mmh. Et on s'est régalé du début à la fin. Moi, le match, honnêtement, je ne l'ai pas vu passer. Donc, quand c'est ça, c'est que tu passes un bon moment. Mais malgré tout, moi, je reste sur ma faim au niveau comptable sur ce match. On aura le temps de le développer un peu plus. Mais je pense que la victoire était vraiment à notre portée, malgré le fait que Samba nous en ait sauvé quelques-unes. Quand le gardien en face finit du match, c'est pas pour rien.
Bah ouais. Dans le chat, on a Laurent qui nous dit « Quid d'Openda face à Strasbourg et son manque de finition ?» On en reparlera tout à l'heure. Mais finalement, ça reste un bon point de prix à l'extérieur. Un match, Damien, qui avait plutôt bien commencé hein, pour les Lensois, finalement. 10 premières minutes quasiment maîtrisées par le Racing. Et finalement, logiquement, l'ouverture du score qui arrive de Alexis Claude Maurice.
Ouais, c'est sûr, mais bon, comme face au PSG, on encaisse vite derrière ce but strasbourgeois et nous passe assez vite devant. Mais oui, pour autant, une fois qu'on avait mis le premier but, moi personnellement, je me disais bon, c'est bon, on a fait le plus dur. Maintenant, on va dérouler. Puis en fait, non, on encaisse assez rapidement. On n'a pas eu le temps en fait de les faire douter justement, parce que si on avait pas pris ce but, qu'on les avait bien fait douter, je pense que déjà ils auraient vite pris quelques cartons pour nervosité, mais en plus de ça, ils ne seraient pas revenus parce que nous, on se serait installés puis ça aurait été fini. Mais là, malheureusement, on encaisse très vite comme face au PSG. Et ouais, là où je rejoins Antoine, c'est qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux si on ne s'était pas raté sur le début de match. Bon, malheureusement, c'est tout. On a encaissé ces deux buts. Bon, on a plus trop eu l'habitude justement d'encaisser des buts cette saison. Bon, on va dire que ça fait du bien de ne pas en encaisser autant, mais bon, voilà, c'est tout, c'est un match comme ça. Il en faut dans une saison. Malgré tout, on ne perd pas. Je pense que l'année dernière ou les années précédentes, après avoir encaissé, on aurait peut-être lâché à un moment donné, on ne serait peut-être pas revenu. Là, on a repris notre marche en avant et bon, on aurait pu repasser devant. Alors oui, peut-être que la finition d'Openda a manqué, mais il met quand même un superbe but de la tête. Quoi. Enfin...
Elle n'a pas manqué la finition d'Openda, je trouve. Enfin, je trouve que c'est dur d'en vouloir Openda sur ce match. C'est quand même lui qui égalise. Ouais. Lui qui égalise, il rate son face-à-face, oui, effectivement. Mais bon, si Openda marquait tous ses face-à-face, en plus d'être efficace de la tête, de mettre des dribbles derrière la jambe à Marquinhos, il ne serait pas vers ses lances, les gars. Il faut quand même se dire.
Il est encore jeune. Son timing de la tête, il est magnifique. Enfin, ouais,
le centre de sublime. Ce côté est aussi magnifique.
On est bien d'accord. Tout est beau dans l'action.
Oui, vas-y Antoine.
Et non, mais je voulais juste reprendre Damien parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc ça me fait plaisir. On n'a pas raté notre début de match. On a raté la sortie du début de match parce que le début de match, il est parfait.
Je suis d'accord.
Au bout de 2 minutes, on est quasiment à 10 dans leurs 35 mètres et on fait ce qu'on fait quasiment à tous les matchs, c'est-à-dire qu'on démarre avec un rapport de force extrêmement à notre avantage. Et puis ouais, par contre, les fils se sont touchés après
sur 3 minutes de temps. Quoi.
Je suis d'accord. Ouais, un petit peu plus peut-être, mais alors moi j'ai noté entre 5 et 10 minutes, hein, ça dépend. Ouais. Mais c'est vrai que c'est rageant, Hugues, d'avoir finalement ces 10 minutes de flottement qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir du côté du Racing cette saison. 10 minutes fatales surtout, hein, où on encaisse 2 buts, et ça aussi c'est plutôt rare. C'est assez rageant finalement.
Ouais, d'ailleurs, il y a un début où Brice Samba relâche le ballon, enfin le repousse, et on a l'habitude qu'il les bloque. Donc, moi, je pense qu'on est allé en Alsace pour apprendre beaucoup. Il y avait un plan des Strasbourgeois que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire il y a Ajorque qui a harcelé Danso, qui est quand même un joueur capital. L'arbitre a été assez indulgent avec ça, mais vraiment, Danso n'a rien pu développer pendant ce match parce qu'il avait un type qui le harcelait. Il y a aussi l'absence de Salis Abdoul Samed qui faisait que c'était Onana à sa place, et les milieux strasbourgeois l'ont clairement ciblé, ce qui a abouti à des pertes de balles. Oui. Bon, sur la phase où on ne défend pas bien, c'est difficile à expliquer. On n'a pas de réussite dans les duels, où on ne met pas forcément l'intensité qu'il faut. On a un petit relâchement. Mais je pense que ça a servi que Francaise, en montrant la vidéo de ce moment de faiblesse, eh ben, il avait beaucoup de choses à débriefer auprès de ses joueurs.
Tu l'évoquais, Hugues, Antoine Combes, est-ce que l'absence de Samet a été préjudiciable pour le Racing sur ce match-là, tu crois ?
Ouais, c'est compliqué. Oui, je vais dire oui dans le sens où Onana m'a déçu avec le ballon. Dans l'utilisation du ballon, j'ai trouvé pas mal de pertes de balles. Autant sans le ballon, je lui mets un 8 sur 10 sur le match, parce qu'il en a intercepté beaucoup et il a eu une bonne présence. Autant dans l'utilisation, dès qu'il l'avait, c'était au plus simple, quoi. Et je pense que ça correspond aussi au style du joueur. Et c'est ce qui peut le différencier d'un Samed, où dans l'utilisation du ballon, Samed est beaucoup plus intéressant. Donc c'est ce qui a l'une des raisons qui ont fait que en deuxième mi-temps, notamment, on n'a pas réussi à se procurer, même si on s'en procure quand même beaucoup d'occasions. Hein. Plus je réfléchis à ta question, et plus j'ai envie de te dire, ben non, parce que si on met on a trois voire quatre occasions nettes, si tu gagnes le match, limite tu poses pas la question, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, je te disais oui, mais finalement pas tant que ça vu les occasions qu'on a eues.
Mais Strasbourg, on a eu quand même 2-3 et 2-3 vraiment assez énormes quand même, qui auraient pu aussi nous être fatales hein, pour le coup. Donc c'est en ça que je vous demandais si le nul était plutôt logique. Dans le chat, on a Coyote du 59 qui nous dit du parkage. En tout cas, on a vécu un super match, que ce soit sur le terrain, le niveau de jeu ou des tribunes avec un super public à la Méno en plus. Franchement, on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. C'est vrai qu'on a eu un duel à distance d'Antoine du côté des gardiens également, et un Matsels finalement qui a été le bourreau hein, des attaquant l'en soit sur ce match-là, c'est peut-être pour ça qu'on ne gagne pas ce match aussi.
Ah ouais, bah c'est exactement ça. Je pense que le match aurait pu finir en 5-3 ou ça aurait pu vraiment être un match au score fleuve. C'était presque comme l'a très bien dit Antoine en introduction, ce qui était beau, c'est de voir que Strasbourg, même si le Racing Club de Strasbourg a commencé quand même en subissant et je pense en étant assez tendu, en prenant ce premier but, en fait, c'est complètement libéré. C'était un peu le chant du cygne, ou plutôt, si je puis me permettre, le chant de la cigogne strasbourgeoise, qui a fait que, en fait, ils se sont complètement lâchés et ont peut-être aussi, à ce moment-là, joué sans, complètement libéré. Et puis, ça a donné ce match avec des actions dans tous les sens. L'action qui résume le mieux le match, pour moi, c'est celle où Samba fait une parade absolument incroyable et sur une relance au pied et une énorme erreur d'appréciation de Niamsi. Derrière, il y a Openda qui a un face-à-face avec Sels, qui aurait dû, normalement, bien entendu, finir en but si Openda avait réglé la mire. Mais après, Sels nous a fait juste un spectacle de gardien de très haut niveau en arrêtant absolument tout. Et
franchement, en deuxième mi-temps, il sauve trois buts, quoi.
Ah ouais, non, il a été impérial. Il a été impérial.
Ouais. Brice Samba aussi, il était impérial, notamment face à Diallo. Habib Diallo. Hein, Habib Diallo, c'est vrai que cette action-là, cet arrêt réflexe est assez magnifique. Je vais vous demander de noter deux joueurs sur ce match-là. On en notera un petit peu plus sur le match de d'Auxerre dans un instant. Je vais donner pour Antoine Combe et pour Damien Facundo Medina. Allez, Antoine, commence. Tout ça.
Je réfléchis. Ouais, je lui mettrai 6. Comme l'a dit, je ne sais plus qui l'a dit, que Danso avait été pas mal focalisé par les Strasbourgeois. Ça a été un peu à lui d'orienter le jeu avec Gradit. Il l'a plutôt bien fait. Un peu plus en difficulté défensivement, parce que si les occasions strasbourgeoises existent, c'est qu'on est un peu moins présent. Donc, moi, j'ai bien aimé son utilisation du ballon, mais un peu moins, du coup, à l'inverse, ça. Parce que j'ai pas envie de lui dire qu'il a fait un mauvais match défensif non plus, hein. Mais voilà. Mais
il est un peu au duel et responsable un peu sur le deuxième but strasbourgeois quand même.
Bah c'est ça. Donc limite, ouais, même plus 5 que 6.
Allez, Damien.
Ouais, je lui aurais quand même mis le petit 6 aussi, malgré tout, comme Antoine. Dans l'utilisation du ballon, il est impeccable. Hein, très peu d'erreurs comme on a pu le voir par le passé dans son jeu de passe qui reste toujours très risqué hein, mais le nombre d'erreurs je pense qu'il peut se compter sur les doigts de la main du coup très peu d'erreurs dans les passes, il casse beaucoup les lignes, enfin il a un pied gauche magnifique, c'est du délire. Par contre effectivement sur l'animation défensive beaucoup plus compliqué, même face à Auxerre hein, on le voit qu'il a été pris dans le dos.
Il a peut-être un petit coup de moins bien aussi. Hein.
Ouais, ces deux derniers matchs, c'est un petit coup de moins bien parce que face au PSG, il a été impeccable. Mais les deux derniers matchs, physiquement, peut-être qu'il se sent moins bien. Ou... Bon, voilà. Mais je lui aurais mis un petit 6 quand même.
Ouais, ça marche. Antoine et Hugues, on va noter avec vous Jean Onana. Hugues, je te laisse la parole.
J'ai envie de mettre 4. Franchement, il y a eu des gestes techniques qui m'ont inquiété, des ballons où il était pas vraiment encore attaqué et ils paniquaient un petit peu. On est gâté aussi chaque semaine. On voit des milieux de terrain qui font des choses très propres, qui ont une vision du jeu vraiment excellente. Et là, on avait un joueur qui joue moins, qui est moins titulaire, et j'ai trouvé qu'il était un cran en dessous. Donc, pour moi, si on a eu des difficultés parfois à approcher le but strasbourgeois, si on a pu jouer un peu moins haut que d'habitude, parce que bon, c'est comparé avec des matchs où on joue extrêmement haut, c'est un peu de la faute de Jean Onana, donc 4.
4. Dans le chat, on nous dit Tiger Golf Matter nous dit le repli défensif sans Abdoul Samed, c'est peut-être pas la même histoire. Et justement, Antoine, Jean Onana avait la tâche finalement de remplacer Abdoul Samed sur ce match.
Ouais, c'est pas facile pour Onana parce qu'au final, comme tout le monde le remarque bien, c'est pas le même joueur que Abdoul Samed. Et Abdoul Samed, en plus de ça, d'être un joueur beau à voir, c'est un joueur qui est étincelant et qui est clairement à un niveau. C'est peut-être aujourd'hui le joueur le plus fort dans les performances au sein du 11 Lensois. Depuis le début de la saison, j'ai pas souvenir de l'avoir vu rater un match ou peut-être. Au grand maximum un match. Et du coup, Jean Onana, il arrive comme ça, il se retrouve un peu dans cette position de joueur qui a peu de temps de jeu, qui en plus de ça a un profil beaucoup plus physique, beaucoup plus dans l'impact que dans la technicité, dans la vista. Donc forcément, on attend des choses que lui ne fait peut-être pas de manière générale. Et d'ailleurs, Ez l'avait très bien dit en avant-match, j'attends pas d'Onana qui fasse du Abdoul Samed. Est-ce que faut pas attendre d'Onana qui permette à Fofana justement d'être un peu plus étincelant et un peu plus dans la projection? Voilà, c'est des questions. Pour revenir à son match, moi j'ai trouvé qu'il avait été plutôt souverain dans le duel physique en première mi-temps. Oui. Effectivement, dans les passes, il y a un petit peu de déchet, mais beaucoup plus que Abdoul Samed. Mais je trouvais que vraiment dans l'impact physique, il amenait beaucoup de choses. Et je suis pas convaincu que ça soit Jean Onana qui soit le joueur à qui on doit les deux buts qu'on a pris. Je pense qu'avec une plus grande concentration, Onana, en fait, son match aurait été tout à fait convenable et peut-être que une victoire du RC Lens aurait été beaucoup moins générateur de critiques à son égard, parce que je trouve que quand même les gens sont globalement assez sévères avec lui. Sa deuxième mi-temps était beaucoup plus compliquée par contre, donc en fait ouais, je lui mets un 5, un 5 vraiment très sympa, parce que j'ai envie de l'encourager et je me dis que c'est un joueur qui, je pense, a encore un rôle à jouer dans cette saison pour le RC Lens.
Et il est jeune, hein, il a 23 ans aussi.
Il est très jeune.
Et puis il a pas beaucoup de temps de jeu malgré tout, hein. Donc c'est vrai que quand t'es titulaire et que t'as pas beaucoup de temps de jeu, il faut aussi
ça. Et il prend un jaune à la troisième minute.
Ouais. Ça c'est vrai que ça aide pas non plus. Rapidement, est-ce que l'un d'entre vous a un carton rouge ou un carton vert? Antoine Combes, vas-y.
Carton rouge pour l'arbitre et la vidéo qui encore une fois nous coûte quelque chose à Strasbourg. Ouais. On a l'habitude, il faut en parler parce que sur le deuxième but, c'est pas du football, c'est de la boxe. Hein. Mm. Sur la protection de balle du Strasbourgeois qui lance ensuite dans la profondeur, il lui met une tarte dans la tronche à notre Seco. Donc forcément, encore que l'arbitre ne le voit pas, mais encore, il est positionné pour le voir.
Il est juste à côté quand même. Bon, bref. Ouais.
Mais... on va dire qu'il avait les yeux sur le ballon et pas sur le haut du corps. Mais que la vidéo ne l'interpelle pas alors que c'est clairement une faute, moi, c'est ça qui m'interpelle. Et j'essaye de... Pourquoi la vidéo n'intervient pas? La seule explication que je pourrais avoir, c'est qu'il y a une volonté de ne pas trop arrêter le jeu et donc de reprendre vite. Et qu'en fait, au moment où nous, à la télé, on voit la faute, le jeu a déjà repris. Et je pense que c'est à ce moment-là où le quart de la vidéo reçoit lui-même les images. Et donc, forcément, le jeu a déjà repris, on ne peut pas revenir à la vidéo. Et donc,
bien sûr. Ouais.
Donc, basta. Donc, gros carton rouge à l'arbitrage et à la vidéo.
On est d'accord sur cette action-là, en tout cas. On va passer au... Ouais, Antoine, rapidement.
Hein, un petit carton vert, vraiment très rapide, à Alexis Claude Maurice qui nous fait une reprise de championnat qui est vraiment de très, très haut vol. Voilà, Alexis Claude Maurice, on compte vraiment très, très fortement sur lui pour maintenir le niveau actuel.
Ouais, et son but est assez joli aussi en plus, face à Strasbourg. On va débriefer le deuxième match maintenant, messieurs, face à la JOCR après ce match nul en Alsace. Eh bien, on attendait le Racing à Bollard, hein, pour affronter des Auxerrois que les Lensois n'avaient plus rencontrés en L1 depuis la saison 2010-2011. Ça commençait à dater. Imprenable dans son jardin cette saison, Lens s'est offert un nouveau record, hein, 10e victoire consécutive en battant samedi Auxerre par son score préféré cette saison, 1-0. un match assez fermé qui s'est débloqué sur un pénalty de Frankowski. Pour ma première question, messieurs, je vais être assez provoque. Damien, est-ce qu'on peut dire que l'on n'a pas forcément assisté à un match extraordinaire du Racing ?
En même temps, pouvait-on attendre mieux avec une équipe qui était clairement venue pour bétonner, pas en reprendre 6 non plus. Enfin, honnêtement, quand je voyais les discussions sur les réseaux, on s'attendait tous à ce match. Enfin, Auxerre n'allait pas venir
en jouant le...
Bah voilà, enfin 6 même, non ? C'est pas 6 à 2 ? 5 ? Pardon, ouais. Autant pour moi. Mais bon, 5, ça revient au même. Quand tu viens d'en prendre 5, automatiquement, tu vas arriver sur le second match en te disant, bon, allez, on n'en prend pas ou on n'en prend qu'un. Quoi. C'est, surtout connaissant le coach Pélissier, bon, ce n'est pas le plus habitué en plus pour forcément jouer l'hyper-offensive.
Il n'est pas très fou du choix.
On se souvient de Lorient où il a connu une période très compliquée et ça venait bétonner. Voilà, enfin... Donc, je ne veux pas dire que c'est un match qui n'est pas réussi par le Racing. Certes, ça n'a pas été foufou, mais l'essentiel est là. On a eu les 3 points. Et puis, voilà, c'est... Et encore, sur la fin de match, on aurait peut-être pu en mettre un deuxième. Mais,
ouais. Ouais, c'est possible. Antoine, ça m'a fait...
là.
Ouais. Antoine, je ne sais pas si tu te souviens du match face à Montpellier à Bollard, mais ça m'a fait un peu penser à ce match-là, ce Lens-Auxerre samedi.
Ouais, il m'a aussi fait penser au match de Clermont. Au match ouais. De Toulouse aussi, où en fait où on n'est pas souverain, on est face à une équipe qui nous pose des problèmes, où on n'arrive pas trop à ouvrir, et au final on arrive à faire la différence. Donc comme l'a très bien dit Damien, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose de la part d'Auxerre, parce que bon, bah, clairement, Pélissier, de Franck, il est l'antithèse, hein, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais clairement, on a eu une opposition. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que voilà, il y a une telle domination, en fait, encore une fois, contre Auxerre, dès la deuxième minute, 10 joueurs dans les 35 mètres auxerrois. Tu arrives à quand même créer des décalages. On a vu un Frankowski qui a été... incroyable de percussion, de volonté, et puis au final c'est ça la grande force du RC Lens aujourd'hui, c'est qu'il est habité par quelque chose en fait de tellement incroyable que bah, en fait tous les rapports de force on arrive à les remporter, et puis bah là ça s'est joué sur des faits de jeu, mais on en reparlera certainement après, qui ont pour moi rien de scandaleux.
Ouais, on en reparlera dans un instant. Tu parles probablement de ce pénalty, on en reparle dans un instant. Hugues, malgré tout, même si, ok, hein, Auxerre est très regroupé devant son but, peu armé pour le combat, mais le Racing, j'ai pas trouvé un Racing forcément très juste techniquement, et 2 tirs cadrés quand même sur le match.
Bah, question provocante, est-ce que Lens n'a pas un peu raté son match ? J'ai une réponse provocante, non, pour moi pas du tout. Okay. Ils ont été... Ils ont su s'adapter à cette difficulté qui est le bloc extrêmement bas et une équipe qui jouait des contres sur 70 mètres. Dans ce cas-là, il faut savoir être patient. Moi, ce que je vois après cette série de 30 points possibles, 30 points gagnés à Bollard, c'est que Lens réussit à s'adapter à tous les adversaires, ceux qui viennent jouer un peu plus. Il n'y a pas des équipes qui se ruent à l'attaque non plus, et celles qui viennent refuser le jeu, comme Auxerre. Donc Auxerre n'a pas non plus commis énormément de fautes, n'a pas non plus été une équipe qui mettait une intensité de fou dans les duels, mais il n'empêche que ça coulissait pas trop mal, que c'était extrêmement compact, que les lignes étaient les unes sur les autres. Donc dans ce cas-là, il faut réussir à trouver une faille, et c'est... De manière emblématique, celui qui la trouve, c'est Massadio Aïdara, qui n'est pas a priori le joueur le plus technique, mais que moi, sur ce match, j'ai trouvé très bon, très à l'aise, qui faisait des gestes très justes. Donc, ouais, pour moi, il y a eu de la justesse technique, même si collectivement, bah, quand une équipe défend à 11 sur aussi peu de distance, ça risque pas de donner un match comme celui qu'on avait vu à Strasbourg.
On a Enrich dans le chat qui nous dit une équipe qui a bétonné, un arbitre qui a sifflé toutes les 2 minutes, un manque d'inspiration dans la construction et personne dans la surface. C'est ce que nous dit Enrich sur ce match face à Auxerre. Antoine, est-ce que tu es un peu, Antoine Combes, d'accord avec ce commentaire ?
Oui, c'est quasiment intégralement résumé. Première mi-temps, on a été très peu inspiré. Bon, après, c'est difficile de la trouver face à une équipe qui est en bloc bas. Mais ce n'est pas le jeu offensif qu'on avait l'habitude de voir sur les derniers matchs. Mais après, c'est le jeu qui veut ça. Et au lieu de faire tout et n'importe quoi, on a été patient. Faut pas oublier, et pour nuancer un peu l'analyse du match, Openda a quand même une énorme occasion en première mi-temps. Si à la mi-temps tu mènes à zéro, c'est pas du tout le même match.
Sotoka aussi. Et en parlant d'inspiration.
Ouais, ça tient, oui.
Enfin, le coup franc de Frankowski, quand tu joues contre des blocs bas sur coup de pied arrêté, il y a eu quand même, je trouve, beaucoup d'inspiration face à un bloc très très bas. Moi, j'ai.
Ouais, après, donc, ça, sur un bloc bas, ça joue aussi sur les coups de pied arrêté, hein, c'est vrai.
Ouais, mais après, moi, pour compléter l'analyse de la personne du chat, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la réponse de Franck Haise dès le début de la deuxième mi-temps, et c'est là où je sens qu'il m'a appris quelque chose quand même. Ah, il m'apprend des choses quand même, Franck Haise. C'est que en début de deuxième mi-temps, voilà, Lens qui tout de suite repart à l'attaque, et on se prend rapidement un contre. Et il y a 2-3 ans, je me serais dit, oula, attention, on est à domicile. Bon, certes, il y a 0-0, il y a 45 minutes, mais attention. Mais en fait, c'est là où je me suis dit, en fait, non. Il leur a demandé, je pense, d'être encore plus déséquilibré. Il parle souvent de ce principe de jeu, de la recherche du déséquilibre, justement pour déséquilibrer l'adversaire. Et je me suis dit, et c'est des choses qu'on n'a pas vues en première mi-temps. Et je me suis dit, il cherche encore plus de déséquilibre dans les mouvements, notamment de ses milieux de terrain, où Samed était quand même assez très très haut, alors que bon, d'habitude il est un peu plus bas. Et moi, c'est cette réponse que j'ai aimée. Et pour moi, c'est la symbolique, c'est le pénalty provoqué par Aïdara, parce que le mec, il est quand même plein axe, entrée de surface, tu vois.
Ouais.
Alors que bon, et moi, c'est vraiment cette réponse que Franquez apporte au match pour dire, oui, les gars, c'est bien, mais il faut aller encore plus, il faut aller en chercher encore plus. Et donc, c'est vraiment ça que moi, je retiens de ce match. C'est la réponse qu'on a apportée dès la deuxième mi-temps dans la recherche du déséquilibre.
Il y a Damien qui voulait réagir, je crois.
Oui, parce qu'en fait, Antoine et Hugues ont une réponse qui peut être liée. C'est que Aïdara, effectivement, apporte ce déséquilibre, comme le disait Antoine. Et en fait, Aïdara, enfin, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas eu l'habitude de le voir autant à l'attaque, autant aller au centre, autant aller percuter. Enfin, j'ai pas de souvenir de match où il était comme ça. Et justement, on avait tendance même à dire dans cette émission que Aïdara était celui qui apportait l'équilibre justement défensif, car il permettait, que ce soit à Klose ou aujourd'hui à Frankowski, de toujours déborder. Et en fait, là, quand on le voyait, on voyait juste Danso, Gradit et Medina derrière, et puis Aïdara, Frankowski, qui tentait à chaque fois de percuter, de déséquilibrer cette défense d'Auxerre. D'ailleurs, c'est ce qui a fini par arriver avec ce pénalty sur Aïdara, mais la réponse et l'élément clé, c'était clairement Aïdara sur ce match.
Ouais. Antoine, tu voulais réagir aussi.
Ouais, non, en fait, Aïdara et Frankowski sont deux joueurs qui ont des profils similaires, c'est-à-dire qu'ils apportent. Alors, Aïdara, il se découvre un peu offensivement, mais il apporte toujours cet équilibre, ce côté. En fait, il y a pas de on se découvre pas sur le côté gauche avec Aïdara. Et Frankowski, c'est la même chose. Frankowski, il est moins, et c'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps, il souffrait de la comparaison avec des Cabot ou avec des Jonathan Klose. C'est que c'est un joueur, justement, qui apporte cet équilibre entre une capacité à être bon offensivement et à faire du repli défensif. Il récupère énormément de ballons, il fait des passes justes vers l'intérieur du terrain et il combine de mieux en mieux sur le côté. Donc moi, je trouve que ce sont des joueurs en fait qui sont assez cousins dans leur capacité de projection et leur capacité à être efficace sur des replis défensifs. Maintenant, j'aimerais aussi revenir un peu sur ce que disait Antoine Combes. Moi j'aime bien effectivement le fait qu'on paraphrase un peu Franck Haise, etc. Mais toutefois, moi, j'ai pas trouvé pour autant que la deuxième mi-temps du RC Lens était forcément meilleure que la première. Il y a très peu d'occasions en deuxième mi-temps. Ouais. Enfin, vous regardez les time charts de expected goals, il n'y a quasiment rien. Alors qu'en première mi-temps, il y a deux pics sur cette tête d'Openda et ce coup franc superbement bien joué par Frankowski sur Sotoka. Mais autrement, la deuxième mi-temps, globalement, c'est une
possession dangereux et le pénalty,
très stérile. Et même si peut-être que Franquez a communiqué sur une volonté d'apporter plus de déséquilibre, moi, personnellement, sur le match, c'est pas quelque chose qui m'a forcément marqué.
Ouais. Pour continuer quand même, on va y aller rapidement parce qu'il est déjà le temps, hein, il file très vite. Rapidement, Hugues, pénalty pour toi, c'est indiscutable parce qu'on a attendu quand même que ça faisait jaser, notamment Christophe Pélissier.
Ouais, pour moi, le joueur tente un dribble, le ballon passe et le joueur ne passe pas. Donc là, il y a un problème quelque part. Pour moi, c'est une action caractéristique de ce qu'a été le match de Lens, qui a été d'asphyxier son adversaire comme un boa, un peu. Et à un moment, il y a eu un geste un peu malheureux. Il y a eu un autre geste malheureux qui a été celui qui a amené l'expulsion. Et à partir de là, bon, effectivement, il n'y a plus trop d'action, il n'y a plus trop de matchs. Le RC Lens gère. Parce qu'on va faire une saison très longue où on a envie aussi d'avoir des moments un peu où on n'est pas obligé de faire un pressing aussi haut. Et donc là, effectivement, si la deuxième mi-temps a été un peu faible, il faut savoir qu'on a été à 11 contre 10 et on a géré un avantage.
Ouais. Malgré tout, on pinaille, mais le Racing fait sa saison historique, hein, sa première partie de saison est historique, 44 points, comme le dit Nicolas hein, dans le comme un lundi de culturesenior.com, d'ailleurs que je vous conseille d'aller lire. Est-ce que, à force, au lieu de pinailler, est-ce que tout simplement on n'en profiterait pas? Est-ce que on profiterait pas de ce bonheur? On pinaille aussi un petit peu hein, de tout ce qui est ambiance à Bollaert. C'est vrai que on trouve que l'ambiance à Bollaert, c'est pas forcément à la hauteur que ce que proposent les joueurs cette année. Mais le Racing a 44 points en fin de phase aller pour finir sur ce sujet. Antoine Combes, 44 points à la trêve, c'est une saison de champion que nous font le Racing Club de Lens. Et pourtant, t'es deuxième. Et pourtant, t'as que 2 points sur l'OM.
Bah, c'est ce que disait la stat où on est le meilleur deuxième de l'histoire de la Ligue 1. Donc ça résume un peu tout, quoi. Mais le problème dans cette phrase, c'est que c'est deuxième. Donc c'est un peu frustrant par rapport à ça. Tu te dis qu'il y a quand même un déséquilibre apporté par le PSG, mais c'est un autre débat. Mais non, c'est que du kiff. On en a connu des saisons où on n'a pas atteint les 44 points au bout des 38 matchs. Donc c'est que du bonheur. Et c'est aussi ce qu'il faut retenir de la victoire contre Auxerre. Oui, on a été moins flamboyant. Oui, ça n'a pas été le même match que contre le PSG, qui était le dernier match
mais à domicile. Mais on a gagné.
Et pour autant, ben, c'est toujours autant le même kiff, parce que ben, 10 matchs, 10 victoires, c'est le 10e parcage qui assiste au chicoté, quoi. Donc à partir de là, c'est que du bonheur. Donc, c'est un peu ce que disait, je crois que c'était Samed, capté par le micro de Prime Video pendant la célébration, pendant le tour de terrain, où il disait il faut aussi savoir gagner des matchs comme ça. Et moi, je pense que c'est une leçon, ou en tout cas un rappel, qu'on peut tous avoir. Moi, le premier, pour moi, il y avait 4-0 avant le début du match. Et en fait, ben, c'est de nouveau un rappel d'humilité et de se dire qu'il n'y a aucun match facile en Ligue 1, que tu joues contre le premier ou que tu joues contre le matchième. Donc, ouais. ça fait aussi du bien d'avoir des matchs comme ça et il faut savoir les gagner. Ça me fait penser au match de l'année dernière contre Brest où tu perds 1-0 alors que ben, tu dois le gagner.
Oui, mais bon, finalement, ben, tu le perds. Ouais.
Là, ça peut faire pareil hein, avec un contre à la con et basta, on n'en parle plus. Ouais. Et ben là, non, ça nous sourit et c'est aussi ça qui explique les 10 matchs de victoire à domicile.
Tout à fait.
On va passer à digérer la victoire contre le PSG. Et moi, c'est ça que je trouve incroyable. C'est que tu fais un match contre le PSG qui est exceptionnel. Et il y en a eu tellement des cas, des exemples de Rennes, de clubs qui réussissaient à taper le PSG, mais vraiment sans contestation possible, et qui derrière, en fait, s'écroulaient. Et là, tu arrives à te sortir du piège de Lina Montlhéry, et tu arrives à aller faire un résultat à Strasbourg en étant consistant et à gagner contre Auxerre. Enfin, 10 sur 10, 17, 8 clos consécutifs. Enfin, je sais même pas en fait ce qu'il faudrait de plus aujourd'hui aux supporters lensois pour juste.
Guichet fermé, pas 8 clos, parce que 8 clos.
Guichet fermé, pardon.
Rapidement, messieurs, je vais demander de noter quatre joueurs. Hein. Je vous ai attribué un joueur chacun. Essayez de faire très court, s'il vous plaît. Damien, je te donne Florian Sotoka sur ce match.
Je lui mets la note de 6. Parce que voilà, Sotoka, c'est l'élément de Francaise, l'élément clé, comme toujours. C'est celui qui est capable de tout faire. Et encore une fois, hein, comme le disait Antoine sur cette inspiration de Franco, s'il lui-même arrive à mettre un but au fond, voilà, hein, c'est le joueur, encore une fois, qui démontre qu'il arrive à franchir ses paliers. On peut pas lui reprocher grand-chose, quoi.
6 pour Florian Sotoka. On en a pas mal parlé, mais Hugues, je vais te donner prime sur le Frankowski.
Je mets 7. Alors, il serait intéressant d'avoir un débat sur le tireur de pénalty.
Ouais, je voulais en parler, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ouais.
Non, mais bon, alors je vais parler de ça parce que pour moi, 38 000 personnes ont su de quel côté il allait tirer, mais il la met quand même, ce qui est dans un match où il y a 0-0, ce qui montre une certaine force mentale. On ne juge pas un tireur de pénalty sur 1, parce que c'est soit un bilan nul, soit un bilan exceptionnel, parfait. Donc, on verra à la longue, mais j'espère qu'il en retirera d'autres.
Ouais, ouais. C'était une surprise, en tout cas, de le voir tirer ce penalty, c'est vrai. Antoine Combes, David Pereira da Costa, qui était titulaire, hein, qui faisait son retour en tant que titulaire.
5. Pour un peu tout ce qu'on a dit, hein, le manque, selon moi, pas selon certains, le manque d'inspiration. Voilà, match assez neutre. Après, voilà, il revient aussi de blessure. Je pense qu'il est pas. Je pense qu'il est à 100% parce que sinon, S ne le ferait pas jouer. Ouais. Mais voilà, connaissant la nature de la blessure, comme l'avait expliqué Antoine la semaine dernière, je pense qu'il y a peut-être une petite appréhension. Donc voilà, le temps de retrouver notre petit prince qu'on a connu surtout la première partie de saison. Voilà, 5.
5. On finit avec, et t'en as aussi un peu parlé, Antoine, Massadio Aïdara.
Ouais, je lui donnerai un bon 6, parce qu'il a fait un très bon match. Enfin, il a fait un bon match consistant. Et c'est vrai que c'est intéressant de le voir décisif, encore dans la surface, comme contre le PSG, quand il fait le pressing sur le 3-1 à l'entrée de la surface. Là, il va aller chercher le pénalty sur un beau geste technique. Et au-delà de ça, il fait un match très sérieux, très cohérent. Du Massadio Aïdara, 6.
Allez, si l'un d'entre vous a un carton rouge ou un carton vert, ce sera le seul. Alors, désignez-vous. Antoine Combes.
Au parquage au Serrois.
Ouais, voilà. je suis complètement d'accord avec toi.
Super parquage, ils se sont bien fait entendre. Ils ont profité d'une marée un peu en dedans comme l'équipe, en manque d'inspiration, surtout sur la première mi-temps, même très largement sur la première mi-temps. Donc, à saluer malgré leur situation difficile au classement, très beau parquage.
Ouais, j'étais complètement d'accord avec toi. Avant de jouer au quiz à la mi-temps, on va rapidement parler de la victoire des U19 dans le derby du Nord. Les joueurs de Johan Démon recollent quasiment à Montfermeil, qui est premier du classement, grâce à cette victoire 1-0 dans le derby. Ça se joue à la Gaillette dimanche. Le but est signé Ayanda Chichouba, Lance qui recolle à un point de Montfermeil qui s'est incliné face à la réserve du Paris Saint-Germain. On va jouer. Ouais.
Et quel but ?
Ah, j'ai pas vu le but.
Oui. Très beau but. Il se retourne assez rapidement, il se met sur son pied gauche, frappe de loin, en dehors de la surface, magnifique. Voilà, c'était une petite intervention inutile, mais
elle est pas inutile parce que c'est un joueur à suivre.
Il était à Marbella avec le groupe pro. Hein,
et pas mal de monde en parle, et c'est vrai qu'une victoire du LOSC, peu importe la génération, on prend et on en parle. On va jouer, messieurs, dans ce quiz culture sang et or, un quiz spécial première partie de saison du Racing Club de Lens, un quiz qui se joue en équipe de deux. J'ai oublié de faire le tirage au sort, du coup je vais demander à Damien de choisir son coéquipier.
Allez, avec Hugues.
Allez, Damien et Hugues vont affronter les Antoine. C'est parti, quiz sur 5 questions. La première équipe à 3 points remporte le quiz. On donne son prénom avant de répondre, évidemment. Allez, première question sur ce quiz spécial, première partie de saison. Quel est le match avec le plus de buts ?
Hugues. Lens-Lorient.
7 buts, 5 buts à 2. Pour le Racing Club de Lens, ça fait un point pour la team Hugues. Damien, deuxième question. Lens est resté muet contre 4 clubs. Lesquels ?
Antoine. Ajaccio. Nantes. Lille.
Tic-tac, tic-tac.
Antoine, tu peux m'aider. Hein.
Ah, est-ce que j'ai le droit d'intervenir ?
Allez, vas-y. 3.
Je l'ai pas.
2.
Ah merde !
1. La main revient à Hugues et Damien si vous le voulez. Non, vous l'avez pas.
Putain, bah c'est qui quatrième ?
Eh ben, c'est l'un des tout récents matchs, c'était Nice, tout simplement.
Ah bah oui.
Voilà. Personne ne marque de points sur cette question. Citez-moi les deux joueurs qui ont joué l'ensemble des 19 matchs
Antoine,
en entier.
Antoine.
J'ai entendu. Alors, Brice Samba.
Oui.
Seko Fofana.
C'est faux.
Antoine. Et Kevin Danso.
C'est bon, ouais. Brice Samba et Kevin Danso ont joué l'intégralité des minutes de cette première partie de saison pour le Racing. Quatrième question, on est à un but partout si on veut. Combien de buts inscrits par Lens justement ?
Hugues. Après 19 journées, nous sommes à 35 buts.
C'est faux.
Ah non.
Antoine.
Antoine.
C'est un peu moins, c'est sûr.
Oui, il me faut un
32
chiffre. 32, c'est bon.
Ouais. C'est 32. C'est 32 parce qu'il y a une stat extraordinaire. Ligue 1 et Coupe de France, on marque 34 buts, donc 2 buts en Coupe de France. Et à chaque fois, Florian Sotoka est sur le terrain.
Et sur le terrain, oui, ouais, c'est un truc de fou, ça. Ouais.
Ça, c'est une stat incroyable. J'en ai vu une autre passer, d'ailleurs, qui m'a assez ébloui, mais je ne m'en souviens plus. Donc, voilà. Quel est le seul joueur... Dernière question. Quel est le seul joueur à avoir reçu un carton rouge?
Antoine.
C'est
Salis Abdoulsamen, non?
C'est faux.
Non.
Allez, Hugues et Damien pour le match nul. Allez-y.
Hugues. C'est...
Ah, on s'en souvient pas de celui-là. Hein. Moi, j'ai eu du mal
Antoine,
aussi.
Antoine.
Allez, Antoine, vas-y.
C'est à Reims.
Ouais, c'est à Reims, tout à fait.
Putain, qui s'est exclu.
Allez, 3, 2,
ouais, 1. Je l'aurais pas, mais je me souviens du match. C'est à Reims.
Eh ben, personne ne l'aura.
Machado.
C'est Machado.
Trop tard. C'est l'arbitre a sifflé, là.
Bon, j'avoue que j'avais sifflé la fin du match.
J'avais la scène en tête, mais je me souvenais plus. J'allais dire Aïdara, mais je savais que c'était
j'ai
pas lui.
J'ai sifflé la fin du match, malheureusement, c'était venu trop tard, Damien. Victoire de la team des Antoine dans ce quiz. 2-1. Bravo, les gars. Allez, on va entamer la deuxième période de ce Culture sans ailleurs. On va lancer le débat qui fuse depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, et notamment avec ce début de saison assez incroyable que fait Brice Samba dans la cage du Racing. Un vent de renouveau souffle sur le poste de gardien de but de l'équipe de France. On l'a appris la semaine dernière, Hugo Lloris et Steve Mandanda, les gardiens historiques des Bleus ces dernières années, ont raccroché les crampons de la sélection. Et chez les supporters lensois et certains observateurs, je le disais, le murmure du « pourquoi pas Samba » résonne de plus en plus ces dernières semaines. Le gardien des Sangueurs qui prouve tout son talent dans la cage de la meilleure défense de Ligue 1 depuis le début de la saison. Alors Brice Samba a-t-il une chance? A-t-il un avenir chez les Bleus? C'est la question de ce débat que je vais vous poser et je vais lancer Damien sur le sujet.
Alors j'ai envie de dire oui et non. Alors oui, parce que c'est pour moi l'un des meilleurs gardiens du championnat, sans nul doute. Hein, il est extraordinaire, même lorsque l'équipe... Disons que c'est un gardien, il reste concentré sur tout un match. Même lorsqu'il n'a rien à faire dans un match et qu'à un moment donné, il va y avoir une occasion, il est présent. Enfin, c'est en ça qu'il est vraiment très bon. Par contre, j'ai tendance à dire non, car j'ai le sentiment qu'il y a quand même des gardiens qui sont devant lui, dans l'esprit de Didier Deschamps. C'est-à-dire que là, il faut quand même se mettre dans la culture Didier Deschamps. Donc, on sait très bien que Maignan, lorsqu'il reviendra de blessure, il y sera. Areola sera très certainement troisième, même s'il ne joue pas. Et par contre, la place de deuxième, étant donné qu'il a déjà fait des rassemblements, on peut se dire que Lafond y sera également. Donc, j'ai envie de dire oui, parce qu'il est lensois et que rien n'est impossible. On l'a très bien vu avec Jonathan Clauss. Mais dans le même temps, je me dis que dans l'esprit et dans la culture groupe de Didier Deschamps, ce sera très compliqué peut-être pour Brice Samba d'y aller.
Oui, c'est sûr. Rien n'est impossible, Hugues, mais c'est vrai qu'on sait, on sait que Didier Deschamps est très conservateur dans ses choix de joueurs.
Ouais, quand il a testé un joueur, il aime bien le retester. Mais ce que je pense que Brice Samba doit absolument se dire, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur la première liste que Didier Deschamps appellera. Parce que quand on se souvient de Jonathan Clauss, ça faisait quand même 9 mois, 11 mois qu'on parlait de lui et qu'il n'était pas appelé, Et à un moment, il a été appelé. Donc, il faut voir sur la longueur. Le poste de gardien, c'est un poste qui exige énormément de régularité. Et Brice Samba, pour l'instant, il en a, mais à long terme, il est face, effectivement, pour moi, dans Lafond, c'est le rival, tandis que Mac Maignan est le titulaire annoncé. Donc, il faut voir quel sera le plus régulier des deux. Et pour moi, si Brice Samba continue sur cette lancée, il a toutes ses chances, mais il ne faudra pas qu'il soit extrêmement déçu s'il n'est pas appelé la première fois. Alors on peut effectivement penser qu'Alban Lafont sera appelé lors du prochain rassemblement.
Mais tu crois que toi, donc, il a une chance, Brice Samba?
Alors, je crois que s'il maintient ce niveau de performance, évidemment, il a une chance.
Ouais. Antoine, on sait que Didier Deschamps, il a souvent dit, il veut des joueurs qui jouent dans des grands clubs, il veut des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe. Est-ce que finalement, la sélection de Brice Samba passerait pas par une qualif du Racing en Coupe d'Europe à la fin de saison, Ligue des Champions, Europa League?
Ah bah, c'est sûr et certain que en ce moment, enfin déjà d'une, Brice Samba n'a jamais été aussi proche de l'équipe de France. Je pense que il revient de nulle part en fait dans sa carrière. En allant à Nottingham, en revenant à Lens, il fait un choix qui a surpris quelques observateurs. Et en finale, on se rend compte que la jurisprudence close fait que le RC Lens aujourd'hui est un club attractif pour des joueurs qui veulent se lancer dans une dynamique pour aller peut-être, pourquoi pas, tutoyer l'équipe de France. Effectivement, là aujourd'hui, en étant deuxième, en ayant des stats qui sont quand même monumentales, hein, je crois qu'il a des performances, des indicateurs qui sont, il est dans les tout meilleurs à son poste sur les gardiens français, font que il mériterait. Voilà, c'est ça. En fait, moi, ma conclusion sur Brice Samba, c'est qu'il mériterait entièrement d'y aller. Maintenant, il n'est pas le seul. Et comme vous l'avez très bien dit, il y a la logique de groupe. Moi, j'ai moins peur d'Areola que de Lafond. Je pense qu'effectivement, Maignan et Lafond sont partis pour être deux indéboulonnables. Areola, je ne sais pas. Je me demande, est-ce qu'il n'est pas en train un peu de se perdre en ce moment? Est-ce que véritablement Deschamps pourra continuer d'appeler Areola, sachant qu'il fait banquette en première ligue?
Je te coupe juste, Antoine, mais dans le chat, on a Laurent qui nous dit, bon, Lafond, expérience mitigée en Italie à plus haut niveau quand même. Et puis, on parle de Didier Deschamps qui aime les gardiens de grands clubs. Bon,
Ouais.
il joue au FC Nantes, qui joue quand même la deuxième partie de tableau, quoi.
Non, non, mais c'est tout à fait juste. Peut-être que c'est Lafond qui pourrait aussi faire les frais de l'explosion de Brice Samba. Moi, il y a un petit clin d'œil que j'ai envie de m'autoriser. C'est le fait que Steve Mandanda était le numéro 1 à l'OM quand Brice Samba était son numéro 2. Je ne sais pas quelle est la relation entre les deux hommes, mais peut-être qu'il y a aussi la volonté. Peut-être que Mandanda, en prenant sa retraite internationale, a soufflé le nom de Brice Samba à Didier Deschamps. Peut-être qu'on pourrait voir cette filiation entre les deux, entre deux franco-congolais qui pourraient, alors il y en a un qui était RDC et l'autre Congo-Brazzaville, mais peut-être que voilà, il y a une possibilité de voir Samba remplacer Mandanda comme ça aurait pu être le cas à l'OM il y a une dizaine d'années. Donc voilà, moi je pense que pour conclure, Brice Samba mériterait complètement une sélection. Maintenant, il n'est pas le seul et seul Dédé sera le décisionnaire.
Faites comme Laurent, donnez-nous votre avis dans le chat de l'émission. Antoine Combes, je te lance sur le sujet. Après tout ce qu'on dit, Hugues, Damien, Antoine, quel est ton avis, toi, sur l'avenir de Brice Samba? Y a-t-il un avenir Brice Samba en équipe de France?
Bah de toute façon, si on se pose la question, c'est déjà qu'il y a un premier élément de réponse, hein, c'est que ses performances peuvent justifier une éventuelle sélection. Et j'ai envie de dire que son explosion tombe à point nommé, pardon, par rapport au timing des retraites internationales des deux numéros 1, entre guillemets, hein, sachant qu'après, attention, s'il est sélectionné, il ne jouera pas, hein, parce que là maintenant, la place elle est clairement pour Maignan.
Après,
J'ai
Maignan
vu
est
hier.
blessé pour encore un certain temps
Oui,
aussi. On ne sait
voilà,
pas
mais
comment il va revenir. Bon.
certes, mais si Maignan retrouve, en toute logique, ça devrait être le cas, hein, son niveau d'avant blessure, c'est le futur numéro 1 à la Lloris, quoi. Parce que j'ai vu Mandanda, c'est 16 ans d'équipe de France, 34 matchs, hein, donc, mais avoir un joueur dans le staff de l'équipe de dans l'équipe de dans l'équipe de France, c'est jamais rien et c'est pas anodin et ce sera amplement mérité de par les prestations, de par aussi son état d'esprit, hein, parce qu'il faut pas oublier, c'est certes le niveau du joueur, mais il y a aussi tout un bagage à côté qu'il a, l'expérience, etc. Mais c'est et pour revenir à la question que tu posais, Antoine, par contre, il faudra clairement qu'il se qualifie pour une Coupe d'Europe et qu'il prouve à un niveau encore supérieur. Là où Lafond peut le faire, parce que Lafond va jouer la Juventus.
Oui, bien sûr.
Ouais, mais il va jouer la Juve une fois. Enfin, tu peux
Non, mais
pas.
oui, non, mais je suis d'accord. Mais au moins, imagine, il sort de gros matchs. Ça lui fait deux grosses références. Non, mais ça suffira pas. Mais c'est des points qui pourraient potentiellement jouer dans la tête de Deschamps, sachant qu'il a l'avantage d'avoir déjà été sélectionné, et on sait que Deschamps, quand il a sélectionné ses joueurs, c'est pas un grand adepte du changement. Après, ce qui peut aussi jouer pour Samba, c'est que là, on entame un nouveau cycle. Un nouveau cycle avec l'équipe de France, avec du turnover sur certains postes, et qu'on est tout juste sorti d'une Coupe du Monde, et que maintenant, il a 3 ans et demi pour préparer un groupe pour la prochaine Coupe du Monde, même s'il y aura l'Euro avant, évidemment. Mais il repart pour un cycle, donc ça, tous ces éléments peuvent jouer en faveur de Samba, mais à mes yeux, il mérite largement sa chance.
Dans le chat, on a Flo 972 qui nous dit avec Mike Maignan, Samba est au-dessus. Le jeu au pied est juste exceptionnel. Et puis, Laurent continue en disant, Deschamps prend toujours un troisième gardien qui ne vient pas créer la mauvaise ambiance avec le numéro 1 et le numéro 2. C'est vrai que la mentalité aussi, hein, ça peut pourquoi pas aider à Brice Samba avec une bonne mentalité à être sélectionné en équipe de France. La suite, eh bien, on verra. Hein, déjà, on verra le parcours du Racing. On verra si le Racing arrive à se qualifier pour une Coupe d'Europe et peut-être que Didier Deschamps changera d'avis par l'avenir du côté de l'équipe de France.
Amical contre l'Allemagne.
Amical contre l'Allemagne. Ah bon, c'est le prochain match de l'équipe de France.
Au printemps, ouais.
D'accord. Ben on verra bien, pourquoi pas. En attendant, nous, on va se projeter un petit peu plus proche. Hein. On va pas aller jusqu'au printemps, on va se projeter la semaine, même pas la semaine prochaine, cette semaine, hein, en fin de semaine. Ce sera dimanche soir pour le Racing Club de Lens. Retour à la Coupe de France. Le Racing qui se déplacera au bout du bout de la Bretagne, à Brest, un stade brestois 17e de Ligue 1. Que le Racing avait battu en ouverture de championnat. On se souvient, 3 buts à 2 après avoir mené 3 buts à 0. C'était au mois d'août dernier au stade Bollard. Des Brestois qui vivent une saison compliquée, hein, qui viennent de nommer une ancienne connaissance lensoise d'ailleurs, hein, en tant que coach de l'équipe première, un certain Éric Roy. Alors on sait que la Coupe de France, ce n'est pas forcément comme le championnat, hein, tout peut se passer. Je vais vous demander simplement, et je vais commencer par Hugues, comment toi tu vois ce match, comment tu sens ce match du côté du Racing, du côté de Brest?
Ouais, bah moi je déteste cette histoire d'absence de prolongation parce que ça favorise les équipes qui jouent défensif et qui essayent d'aller au pénalty. Mmh. Pour moi, ça met trop d'aléas. Bon, alors on veut de l'aléa en Coupe de France, on veut que Pays de Cassel rencontre le PSG, c'est formidable. Mais ce que je crains, c'est un match nul où on perd au pénalty parce que pour moi, on n'est pas prêt à une séance de tir au but. Donc j'ai envie.
Ça dépend de ton gardien, quoi.
Ouais, j'ai envie de dire, j'espère qu'on va réussir à percer le bloc comme on a réussi à le faire contre Auxerre.
T'es pas très serein, quoi. C'est ce que je ressens, en tout cas, Hugues. C'est vrai que, Antoine, si on va au tir au but sur ce match-là, avec le passif, hein, du Racing et ses pénaltys pas mal ratés, hein, en cette première partie de saison, c'est sûr que Lens partirait pas favori.
Ouais, non, après, les pénaltys, ouais, c'est compliqué. On voit qu'on a quand même trois potentiels tireurs avec Sotoka, Seco. Il y a Frankowski maintenant, comme on a introduit tout à l'heure avec Hugues, qui est aussi maintenant désigné. Je sais pas, franchement, pareil, on en avait parlé, je crois, il y a 2 semaines. Je crois que c'était Greg qui disait que le cas, on dit souvent qu'il arrête aucun pénalty, mais qu'au final, il en avait quand même arrêté quelques-uns sur ces derniers mois. Moi, globalement, j'ai été très déçu du tirage. Pour moi, c'est un vrai tirage de merde. Parce qu'en fait, j'avais envie qu'on joue à domicile, à Bollard, ne serait-ce que pour encore remplir le stade. Et puis là, tu prends une Ligue 1 Bourbier, dans un stade Bourbier.
À 21h, un dimanche soir.
Voilà, pour les supporters, c'est galère. Ouais. C'est un match. Voilà, en fait, c'est vraiment le. T'as envie d'en faire un objectif, la Coupe de France. Mais en fait, aujourd'hui, avec la dynamique, tu te dis, voilà, il faut aller jouer à Brest. Effectivement, et comme l'a très bien dit Hugues, en plus avec cette histoire de bon, peut-être que dans un sens ça peut te permettre d'économiser des forces, mais ouais, c'est vraiment un match que je sens pas trop avec un nouveau coach Éric Roy. On sait pas trop, apparemment là j'ai changé un peu avec des Brestois qui me disaient qu'ils ont retrouvé une solidité défensive.
Deux matchs nuls.
Deux matchs nuls avec beaucoup moins de buts pris. Un but pris en 3 matchs, visiblement. Voilà, c'est un match, effectivement. Ça serait triste de sortir contre Brest à Brest, clairement.
Ouais, ouais. Damien, ton ressenti, toi, ton avis sur ce match à Brest, est-ce que tu es pessimiste un petit peu comme le sont Hugues et Antoine? Est-ce que tu es plutôt, toi, optimiste malgré les conditions?
Non, plutôt pessimiste et je reste martyrisé par ce 4-1 qu'on a pris l'année dernière chez eux. Donc, j'avoue être assez pessimiste. Et oui, comme le disait Antoine,
c'est pas le même Brest, quand même.
C'est pas le même Brest, mais bon, il y a quand même la plupart des joueurs qui sont encore là. Mais bon, non, je le sens pas du tout ce match. C'est vraiment le stade. Ouais, ça sent le match piégeux. Après, comme le disait Antoine, une équipe qui encaisse pas beaucoup. Alors pour le coup, il n'encaisse pas beaucoup parce que pareil, Marco Bizot a été absolument énorme sur ces 2 derniers matchs aussi. On sait qu'on aura un gros gardien et en plus c'est un gardien qui aime les séances de pénalty. Donc, si on va jusque-là, ça risque d'être assez compliqué. Après, bon, on va quand même garder confiance en notre équipe qui nous a toujours prouvé et qui nous a toujours fait mentir sur nos ressentis. Après, je pense qu'on a tous ici été martyrisés par ces 10 dernières années au sein du Racing et c'est pour ça qu'on réagit peut-être de cette
Ouais,
manière.
mais il n'y a plus trop de loose en ce moment au Racing. Hein.
Ouais, mais bon, bah, ça tombera peut-être. Non, si on l'a eu face au LOSC lors de la
Ouais,
phase aller, on va se dire ça,
c'est
c'est un
pas
match qui
trop de
a
la
des lacunes.
loose.
Hein.
Ouais,
Ben
allez.
c'est pour ça, non, mais bon, je vois quand même le Racing se qualifier.
Ah, quand même. Ah, bon.
Ouais,
Ça me
allez.
rassure. Hein. On verra ton prono tout à l'heure. Je t'interroge, Antoine Combes, sur le sujet. Un Stade Brestois qui est quand même mal barré en championnat, hein, 17e, je le disais, hein, pour l'instant relégable. Est-ce que tu crois qu'ils vont jouer à fond cette Coupe de France?
Bah, la jouer à fond, ils vont la jouer surtout en tant que professionnel. Hein, parce qu'ils n'ont pas le choix de venir sur le terrain. Après, ce qui les arrange, c'est que le match n'est pas en semaine. Si le match était en semaine, pour moi, ils auraient balancé la coupe pour se concentrer uniquement sur le championnat, sachant par contre qu'on joue en semaine, je crois, dans la foulée.
Non, on joue d'abord 3 le week-end d'après, il me semble.
Ah, donc il n'y a pas de match en semaine. Donc tu vois, ils
Non.
peuvent mettre l'équipe type
Ouais.
sans aucun risque. Face à une Ligue 1, face au deuxième du championnat, je pense qu'on aura droit à l'équipe type.
Bah,
Même
c'était
nous, je
l'objectif de
pense.
la qualif, hein. C'était l'objectif de la qualif de ne pas avoir une trêve de 2 semaines.
Oui, voilà, donc je pense que même nous, on va peu faire tourner. Moi, je suis un éternel optimiste et je pense que je serai l'optimiste de la bande ce soir. Et en fait, je m'attends à un match similaire à celui d'Auxerre, sauf qu'on sera à l'extérieur, où Brest va d'abord penser à bien défendre. On l'a vu sur les 2 derniers matchs et depuis l'arrivée d'Éric Roy, où il y a d'abord une volonté de stopper les hémorragies et de penser à bien défendre d'abord. C'est pas notre football, mais bon, tant pis, hein, on prend, on fait avec. Et c'est ce en quoi je rejoins Antoine. Moi, j'étais dégoûté quand j'ai vu le tirage. Parce que, bon, on avait une chance sur deux de jouer une Ligue 1, faut qu'on ait joué à Brest. Bon, bah, super. Là où la terre se termine. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec. Et non, moi, je suis confiant. Je pense que le match d'Auxerre va nous servir pour ce match. C'est pas si mal qu'il arrive dans la continuité finalement, où on sait ce qu'on a à faire et on sait surtout ce sur quoi on doit s'améliorer par rapport au match de Serre. Et il y a certains joueurs pardon, qui auront leur chance de nouveau pour donner des maux de tête à Francaise. Donc moi j'y crois. Moi j'y crois.
Ouais. La fraîcheur viendra de Thomasson.
Ah, pourquoi pas,
Non,
c'est
mais
vrai. Ouais,
par exemple, tu
ouais,
peux déjà
ouais.
voir sa première. Le Cardinal, tu peux le revoir à un niveau plus élevé que contre Linas Montlhéry. Ça peut être intéressant de le voir. Tu vas avoir le retour de Samed. Donc, moi, il y a plein d'éléments qui me donnent envie d'être serein.
Vous avez évoqué le fait que Francaise ne ferait peut-être pas beaucoup tourner, hein, parce qu'il n'y a pas de match en semaine. Hugues, tu crois vraiment qu'il ne va pas faire tourner ou quoi, comme voir un semi-turnover un petit peu comme dans les 32e de finale?
Non, logiquement, je pense qu'il va préparer ce match comme un match de Ligue 1. Il va dire, voilà, on se déplace, on va se déplacer avec les meilleurs, on va faire jouer les meilleurs. Montrez-moi ce que vous valez à l'entraînement. Et sur quoi on peut faire confiance à Francaise, c'est que les choix des titulaires sont toujours les bons. On n'est jamais trop surpris par ses compositions. Des fois, on a quand même des choix où on se dit, tiens, c'est amusant, mais non, à chaque fois, c'est les meilleurs qui sont sur le terrain et les remplaçants apportent aussi. Donc, pour moi, il n'y aura pas spécialement de turnover, il y aura l'équipe type.
Ouais. T'es d'accord avec ça, Damien, ou tu vois quand même, par exemple, on parlait de Thomasson, en tant que titulaire, pourquoi pas?
Non, 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 je ne pense pas qu'Adrien Thomasson sera titulaire. Je pense que Wesley Saïd le sera et ce sera peut-être le seul changement par rapport à l'effectif qu'on a vu le week-end dernier. Après, je rejoins Antoine hein, qui disait justement que le but était d'avoir une certaine dynamique, justement, d'un point de vue physique. Donc, non, je ne vois pas d'autres gros changements dans l'effectif à part peut-être Wesley Saïd titulaire. Ouais.
À part
Il
Jean-Louis Lecca,
y
quand même.
aura, y aura Jean-Louis Lecah, ouais,
Et
il y aura
Jean-Louis
Jean-Louis Lecah.
Lecca.
Et
Ouais,
moi,
tout à fait.
je pense qu'aujourd'hui, je pose la question. Désolé, Valentin, je pique un peu ta place.
Vas-y, prends le
Mais
boulot, ouais.
au final, même en Ligue 1, aujourd'hui, ça tourne déjà un petit peu, je trouve, devant. Alors, effectivement, il y a ce bloc derrière qui reste dès qu'il peut jouer ensemble, le double pivot du milieu. Mais au final, devant, aujourd'hui, on a un Thomasson qui peut venir un peu suppléer Sotoka, de la même manière que Claude Maurice vient de temps en temps prendre la place de Pereira da Costa en Ligue 1.
C'est parce que Pereira était blessé aussi, peut-être.
Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas parti justement sur un système où de temps en temps c'est un qui joue 60 minutes, l'autre qui joue 30? Moi, je serais
Non,
quand
mais c'est
même
bon,
pas
là.
surpris de voir Thomasson prendre un peu de temps de jeu à Sotoka. Et puis effectivement, Saïd pour Openda, je trouve qu'il y a aussi une forme de rotation qui fonctionne bien depuis le début de saison. Donc je serais pas surpris quand même de voir 3-4 remplacements sur le 11 de Brest.
Ça permet d'avoir de concerner tout le groupe.
Oui, aussi. Voilà. Oui, c'est tout. Oui, c'est sûr. Après, comme vous le dites, je pense qu'on verra probablement moins de turnover. Hein. On a vu des Esmiel Bourret notamment. On a vu
Rémi Labolascari.
Rémi Labolascari face à Linas. Je vois pas Franquès faire autant tourner. Mais peut-être un ou deux joueurs, comme vous le dites. Hein. Peut-être en attaque, pourquoi pas, pour faire une petite rotation avec Luis Openda. Peut-être laver un petit peu la tête d'Openda sur ces deux derniers matchs, même si c'est vrai contre Strasbourg, il fait pas un mauvais match. En tout cas, on verra ça. Hein, on verra.
Ouais, mais ces joueurs-là sont des joueurs qui sont là pour se vivre comme titulaires. C'est des joueurs qui se disent ma place est sur le terrain. Hein, je suis pas venu comme titulaire. Hein.
Oui, après, il rentrera en jeu probablement, même s'il n'est pas sur le terrain au coup d'envoi, parce que Wesley Saïd fait rarement des matchs de 90 minutes hein, avec le Racing Club de Lens. En tout cas, on verra bien ce dimanche, hein, dimanche soir, 21h, il me semble. C'est vrai que ça ne va pas être simple hein, pour les supporters lensois d'aller se déplacer à Brest un dimanche soir à 21h. En tout cas, on va pronostiquer ce match. Messieurs, Antoine Combe, ton prono pour ce Brest-Lens.
2-1 pour Lens.
Victoire du Racing de Buzyn. Hugues, ton prono.
1-1 et défaite au tir au but.
Merci Hugues. Damien.
Bon allez, comme le 2-1 a été donné, je vais dire 1-0 pour le Racing.
1-0 pour le Racing Club de Lens, son score préféré cette saison. Et Antoine, on termine avec toi.
Et moi je vais dire 1-1 et qualif au pénalty.
Voilà, pour contrer la malédiction de Hugues Honoré. Bon, merci messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour débriefer ces deux matchs hein, et cette première partie de saison du Racing incroyable qui nous offre bien des records chaque journée quasiment hein, cette saison, le Racing Club de Lens. On a hâte de suivre cette deuxième partie de saison hein, qui va débuter la semaine prochaine face à 3, hein, déplacement au stade de l'Aube. On sera là évidemment dans Culture Sans Heure pour débriefer tous ces matchs, toute cette deuxième partie de saison avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter nos émissions, à vous abonner pour ne pas rater justement les prochains rendez-vous. Parce que plus vous commentez, plus vous likez et plus vous avez la chance de retrouver nos émissions. Merci beaucoup d'être fidèle à Culture Sans Heure. Vous étiez pas mal dans le chat hein, d'ailleurs ce soir. On vous en remercie. Merci Antoine, les deux Antoine d'ailleurs. Merci Hugues, merci Damien, merci Alexis et la technique qui est là.
Évidemment. On a été bien là, non ? On a été bien là, pas trop. On n'a pas été trop long là, Valentin ?
Ça va. Quand je regarde l'heure, je suis assez content de moi. Merci Alexis donc à la technique. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, bonne soirée.
Merci Valentin.
Merci à vous.